Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit Seigneur se faire une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous en sommes dans les explications à partir des Pères de l'Église de l'Évangile selon Saint-Luc au chapitre 18, verset 18. Nous allons étudier maintenant les versets 18 à 20 à 30 sur le polycopier qui contient les chapitres 16 à 20. À la page 15, en haut de la page, je rappelle ces deux textes magnifiques que nous avions commentés la dernière fois, avant d'expliquer ces nouveaux versets. D'abord, la magnifique phrase sainte Optatus de Milève. Il vaut mieux les péchés avec l'humilité que l'innocence avec l'orgueil. Là, je trouve que c'est une phrase bien consolante pour la plupart d'entre nous, le premier. Deuxième phrase, en haut de la page 15. Ne pas pouvoir pécher n'est pas une vertu, mais ne pas vouloir pécher en est une. Alors, voyons un petit peu maintenant ces versets 18 à 30. Un chef de synagogue interrogea notre Seigneur en disant, « Bon maître, que ferai-je pour posséder la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelez-vous bon ?» Nul n'est bon si ce n'est Dieu seul. Vous connaissez les commandements, vous ne tuerez point, vous ne commettrez pas d'adultère, vous ne déroberez point, vous ne porterez pas de faux témoignages, honorez votre père et votre mère. Il répondit, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Ayant entendu cela, Jésus lui dit, il vous manque encore une chose. Vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel, puis venez, suivez-moi. Mais lui, ayant entendu ces paroles, fut attristé car il était très riche. Et Jésus, voyant qu'il était devenu triste, dit qu'il est difficile, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ceux qui l'écoutaient dirent, qui peut donc être sauvé? Il leur dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors Pierre dit, voici que nous avons tout quitté, que nous avons suivi. Il leur dit, en vérité, je vous le dis, personne ne quittera sa maison, ou ses parents, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants pour le royaume de Dieu, qu'ils ne reçoivent beaucoup plus dans le temps présent, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Beaucoup de très beaux points dans cette partie du chapitre 18 de Saint-Luc. D'abord la vocation. Notre Seigneur Jésus-Christ qui parle à cet homme qui demande « Que ferai-je pour posséder la vie éternelle ?» Et notre Seigneur Jésus-Christ lui donne la clé, tout abandonner, vendre tout ce qu'on a pour le donner aux pauvres, puis venir et suivre notre Seigneur. Donc c'est un signe de vocation. Notre Seigneur appelle ce chef de synagogue à le suivre. Mais comme cet homme était bloqué par sa richesse, par la concupiscence des yeux, il ne put se décider à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très souvent le cas. Le bon Dieu appelle plus que jamais aujourd'hui. Il ne faut pas croire qu'à cause de la situation dans laquelle nous sommes, puisque nous sommes orphelins d'autorité à Rome, et que Rome est envahie, est occupée par l'Église de Vatican II, ça ne veut plus dire qu'il n'y a plus de vocation, hein, même si... Et humainement parlant, il est bien difficile de pouvoir trouver un endroit de confiance où nous puissions envoyer nos vocations. Pendant le bon Dieu appelle, il trouvera toujours cet endroit, à condition qu'on réponde. Il est évident que le monde moderne dans lequel on vit je dirais, va amonceler sur le passage des âmes qui cherchent Dieu des obstacles divers et variés pour empêcher ces âmes de répondre à la vocation. Ici, notre Seigneur va insister dans ces versets sur l'obstacle que représente l'amour des choses matérielles, l'amour des choses de ce monde. Il est plus facile, dit notre Seigneur, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et donc, pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, il faut commencer par vider son âme des choses matérielles pour laisser de la place à notre Seigneur. D'abord, un commentaire de Saint Jean Chrysostome en bas de la page 15. Il n'y a pas de profit dans les richesses si l'âme souffre la pauvreté, pas de blessure dans la pauvreté si l'âme est dans l'abondance. Donc il y a deux choses. Ou on a une abondance spirituelle, ou on a une abondance corporelle, physique. L'abondance matérielle va entraîner une pauvreté spirituelle. Au contraire, l'abondance spirituelle va aller de pair avec la pauvreté matérielle. On ne peut pas à la fois jouir de notre Seigneur Jésus-Christ et jouir des plaisirs du monde. Pas possible. C'est, je pense, toute l'erreur, une des erreurs de Vatican II, de l'esprit de Vatican II, justement, de faire croire aux gens qu'on est sur la terre pour jouir de la vie. C'est l'Église de Vatican II qui a pour but d'aider les gens à se sentir bien sur la terre. Notre but sur la terre n'est pas de se sentir bien ici-bas. Notre but sur la terre est de préparer la voie, de préparer notre possession du ciel. Bien sûr, on a le droit de s'attacher aux choses de ce monde, à condition que cet attachement aux choses de ce monde ne soit pas pour nous, ne devienne pas pour nous un obstacle aux choses plus importantes. Il est plus facile pour le Christ de souffrir pour les amoureux de ce monde que pour les amoureux de ce monde d'être convertis au Christ. L'amour de ce monde empêche l'amour de Dieu. Au verset 25, il est parlé d'un chameau. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ce chameau, donc, représente le Christ, car il s'est volontairement humilié pour porter le poids de nos infirmités. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ porte, par son humanité, nos faiblesses. Il est devenu homme en tout. Véritablement homme, comme nous, il a tout pris de l'humanité, sauf le péché. Cependant, bien qu'il ne soit pas responsable d'aucun péché, puisqu'il est Dieu, il ne peut pas pécher, cependant, notre Seigneur Jésus-Christ porte sur lui le poids de nos infirmités. Il est innocent, mais il porte le poids de la culpabilité qui est la nôtre. Nous ne voulons pas faire pénitence pour nos péchés, alors Dieu va faire pénitence à notre place, littéralement. L'aiguille, on parle ici du trou d'un trou d'une aiguille, l'aiguille symbolise les coups violents et donc toutes les souffrances reçues pendant sa passion. Mais par la forme de l'aiguille sont indiquées toutes les difficultés de la passion. L'aiguille va blesser. Ça représente toutes les souffrances de la passion et en même temps toutes les souffrances provoquées par le péché. Les choses qui sont impossibles avec les hommes sont possibles avec Dieu. C'est le verset 27, il leur dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Ce qui ne veut pas dire qu'un homme envieux et orgueilleux puisse entrer dans le royaume des cieux, mais qu'un tel homme puisse se convertir à la charité et à l'humilité. Tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Et sans la grâce du bon Dieu, rien n'est possible. Rappelez-vous ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela sous-entend qu'avec lui, on peut tout faire. Tout est possible. Seulement, il faut se détacher des choses de ce monde. Première condition pour se mettre sur le chemin qui mène au ciel, c'est d'arrêter d'être attaché, trop attaché aux choses de ce monde. Encore une fois, ce n'est pas un péché d'être attaché en partie aux choses de ce monde. Le bon Dieu ne vous demande pas de vivre complètement détaché des choses de ce monde. C'est pratiquement impossible, sauf pour certaines vocations très spéciales. C'est sûr qu'il y a eu des grands anachorètes, des grands cénobites qui ont passé leur vie dans un abandon total des choses de ce monde. Mais le bon Dieu ne demande pas ce genre de choses au commun des mortels. Mais à tous ceux qui veulent le suivre, il pose une condition, vivre en état de grâce. Souvent, les gens posent cette question, ça arriverait fréquemment. Monsieur l'abbé, j'ai une situation professionnelle, qui me donne pas mal de joie, pas mal de plaisir. Est-ce que j'ai le droit de la garder? Si je veux être un bon catholique. Oui, la question que je vais poser, toujours la même. Est-ce que vous êtes capable, dans cette situation professionnelle qui est la vôtre, d'y rester en état de grâce? Si la personne me dit oui, Dieu aidant, je peux rester en état de grâce tout en possédant cette profession, alors à ce moment-là, vous pouvez la garder. Par contre, si la personne me dit, écoutez, j'ai un bon salaire, j'ai beaucoup de facilité sur le plan financier, sur le plan matériel, mais non, je ne peux pas rester en état de grâce dans ce métier, c'est impossible. Eh bien, dans ce cas-là, il faut couper. Le bon Dieu ne peut pas vous demander de rester dans un milieu qui vous amène en enfer, ce n'est pas possible. Il ne peut pas souhaiter qu'on aille en enfer. Et donc, si nous sommes dans une occasion qui nous mène au péché, une occasion prochaine volontaire de péché grave, eh bien, il faut couper. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur. On peut très bien commenter ces versets ici, avec cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, si ta main droite, ton pied droit ou ton œil droit sont pour toi des occasions de péché, la coupe, jette au loin, parce qu'il vaut mieux pour toi rentrer au ciel avec un seul œil, un seul pied ou une seule main, plutôt que de tomber en enfer avec les deux pieds, les deux yeux ou les deux mains. Donc tout est possible avec la grâce du bon Dieu, à condition d'avoir l'état de grâce. Une conversion n'est pas possible sans état de grâce. La conversion mène à l'état de grâce. Une fois qu'on a obtenu cet état de grâce et la vertu de charité, il faut faire très attention de la conserver, cet état de grâce. Passons à la page 16, en haut de la page, versets 31 à 34. Ensuite, Jésus prit à part les 12 et leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Car il sera livré aux gentils, on se moquera de lui, on le flagellera, on crachera sur lui. Après qu'on l'aura flagellé, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais il n'a compris rien à cela. Ce langage aurait été caché, il ne saisissait point ce qui était dit. Pourtant, notre Seigneur va répéter la même chose plusieurs fois. Cette annonce de sa passion va scandaliser les apôtres. Et c'est parce qu'ils sont scandalisés par l'homme de douleur, ils attendent encore un Christ glorieux ici-bas. Ils ne réalisent pas que notre Seigneur Jésus-Christ va devoir porter sa croix, c'est-à-dire passer par un chemin de douleur avant de retourner au ciel dans sa gloire, la gloire de son Père. Mais ici-bas, c'est la douleur. Et donc, les apôtres n'ont pas encore compris cela et attendent toujours de voir notre Seigneur Jésus-Christ réintroduire le royaume d'Israël. Et beaucoup de Juifs sont encore comme ça, ils attendent un Messie glorieux ici-bas sur la terre, glorieux matériellement parlant. Ils attendent un Messie qui leur donne le pouvoir matériel ici-bas, toutes les richesses d'ici-bas. Ils ne se rendent pas compte du tout, ils ne comprennent pas du tout qu'ici-bas, il n'est pas possible d'avoir toutes les richesses de ce monde et en même temps de rester en état de grâce. Combien de fois j'ai entendu cette remarque vraiment triste, même de la part de catholiques, surtout en général de catholiques un peu superficiels, quand j'étais aux États-Unis. Le bon Dieu nous bénit, regardez, nos magasins sont tous pleins. Mais ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ qu'il faut remercier, c'est le démon, parce que c'est le démon qui nous donne l'abondance. Et l'abondance va nous faire tomber dans l'orgueil, l'abondance va nous faire tomber dans la complaisance en nous-mêmes, dans toutes les choses matérielles. Alors voyons un petit peu le commentaire des pères sur ces versets 31. 34, Saint Jean Chrysostome, Isaïe prophétisait cela. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient les cheveux. Je n'ai pas caché ma face de la honte et des crachats. Les Juifs attendaient un Messie glorieux ici-bas, ils vont avoir l'homme des douleurs. Le prophète avait également prophétisé la crucifixion. Il a versé son âme dans la mort et fut compté parmi les transgresseurs. Et après qu'on l'aura flagellé, on le fera mourir. Donc on voit bien que notre Seigneur Jésus-Christ, par les prophètes et aussi par les psaumes de David, va annoncer sa résurrection. Il le fait de façon expresse à ses apôtres. Quand on analyse les textes des prophéties dans l'Ancien Testament, le texte des psaumes, bien il est parfois difficile de comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est annoncé par les psaumes. Par contre, ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui, de lui-même, explique, donne l'explication. Je vais être on va se moquer de moi, je serai flagellé, on va cracher sur moi, on va me flageller, on va me faire mourir, mais je ressusciterai d'entre les morts. N'oublions pas que les Juifs connaissaient par cœur les 150 psaumes de David, ils les apprenaient à l'école. Et c'est pour cela qu'avant de mourir, pour bien expliquer que notre Seigneur Jésus-Christ est ce Messie qui avait été annoncé pendant des siècles, même plusieurs millénaires, par les prophètes, que notre Seigneur Jésus-Christ était justement ce Messie annoncé. Peut-être la plus belle prophétie, c'est celle du roi David, donc 1000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ, le psaume 21, celui qu'on dit à l'office de prime, pour la prière du matin le vendredi. Mon Dieu, regardez-moi, pourquoi m'avez-vous délaissé? Les paroles de mes péchés sont loin de mon salut. Je crierai pendant le jour et vous ne m'exaucerez pas, et pendant la nuit ce n'est point pour moi une folie. Mais vous, vous habitez dans un sanctuaire, vous, la louange d'Israël. Vers vous, ils ont crié, ils ont été sauvés, en vous, ils ont espéré et n'ont point été confondus. Pour moi, je suis un ver et non pas un homme, l'opprobre des hommes et l'abjection du peuple, ça s'annonce déjà la nudité de la passion, de la crucifixion. Tous ceux qui m'ont vu m'ont tourné en dérision, ils ont parlé du bout des lèvres, ils ont secoué la tête. Et puis plus loin, il est dit, la tribulation est proche, il n'y a personne qui me porte secours. Ils ont ouvert sur moi leur gueule comme un lion ravissant et rugissant. Je me suis épanché comme de l'eau et tous mes os se sont déboîtés. Mon cœur est devenu au-dedans de moi comme une cire qui se fond. Ma force est desséchée comme un tête et ma langue s'est attachée à mon palais et vous m'avez conduit à la poussière de la mort. Parce que des chiens nombreux m'ont environné, un conseil de méchants m'a assiégé, ils ont percé mes mains et mes pieds et tous les gens de Jérusalem qui étaient devant la croix et qui assistaient à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa crucifixion, ont vu qu'il avait les mains et les pieds percés. Et puis après, il va rajouter encore une autre précision. Ils se sont partagés mes vêtements et ma robe, et sur ma robe, ils ont jeté le sort. Vous voyez, on voit très bien encore une fois ici, ils ont compté tous mes os. Ils m'ont eux-mêmes considéré, regardé attentivement, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on voit que notre Seigneur Jésus-Christ a scandalisé les apôtres qui ne comprenaient pas. C'est un peu la même chose pour nous. Nous aussi, on ne comprend pas. Pourtant, Dieu sait si notre Seigneur Jésus-Christ nous prévient, attention, être catholique, ça veut dire me suivre en portant sa croix. Celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix, qui se renonce à lui-même et qu'il me suive. Mais on est comme les apôtres. Ce langage nous est caché, nous ne saisissons point ce qui nous est annoncé. Pourtant, le roi David avait prédit la résurrection. « Vous ne laisserez pas mon âme dans les enfers, et le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. » Notre Seigneur va l'annoncer plusieurs fois. Quelle tristesse de voir que ben souvent, nous ne comprenons pas toutes ces choses. Notez que notre Seigneur, c'est un commentaire des Pères, ne dit pas qu'il ressuscitera après trois jours, mais troisième jour. Parce que notre Seigneur va mourir le vendredi saint à 3h de l'après-midi. Trois jours plus tard, ça fait lundi de Pâques. Donc samedi, dimanche, lundi à 3h de l'après-midi. En fait, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité plus tôt parce qu'il n'a pas dit qu'il ressusciterait après trois jours, mais qu'il ressusciterait le troisième jour. Donc le jour de sa mort, il faut considérer cela comme le premier jour, le vendredi saint, même si c'est qu'une partie de la journée. Samedi saint toute la journée, un petit bout du dimanche de Pâques. Jusqu'aux premières heures du matin lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. La tradition nous dit qu'il a passé 36 heures au tombeau. Vous avez la préparation du vendredi, le sabbat du samedi jusqu'au coucher du soleil, sa résurrection après que le sabbat fut terminé le dimanche matin. Donc pourquoi est-ce que les disciples ne comprennent pas? On peut se poser la question, mais pourtant notre Seigneur va leur répéter, attention, je vais mourir, je vais être crucifié, mais je ressusciterai d'entre les morts. Encore une fois, ils attendent un Messie glorieux. Ils ne comprennent pas que notre Seigneur va d'abord passer par l'étape de la souffrance. Il va être un Messie souffrant, l'homme des douleurs. Les disciples savaient, disent les pères, que le Christ était un homme sans tache, mais aussi parfaitement Dieu. Ils pensaient donc qu'il ne pouvait d'aucune façon mourir. Quand on leur parlait de sa passion, ils croyaient qu'il disait ces choses de manière allégorique, se référant à quelque chose d'autre. Ce langage aurait été caché, ne saisissait point ce qui était dit. Donc, quand ils voient, ils savent que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et si les pères le disent bien, les disciples savaient que le Christ était parfaitement Dieu. Et ils se disent, puisqu'il est Dieu, il ne peut pas mourir. Ce qui est en soi est vrai. Il est parfaitement exact que Dieu ne peut pas mourir, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu, est éternel. Mais il n'est pas simplement Dieu, il est homme. Et donc ce mystère de l'incarnation qui mène à la rédemption n'était pas connu des apôtres complètement. Ils n'avaient pas compris que notre Seigneur Jésus-Christ, s'il ne pouvait pas mourir comme Dieu, pouvait mourir comme homme. Et donc ils voyaient un homme Dieu et s'accrocher à la divinité pour refuser la souffrance de la croix, la souffrance de la passion. Et donc ils vont refuser cette souffrance. Et c'est le drame un petit peu des catholiques aujourd'hui. Ils veulent bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, mais pas dans ses souffrances. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ invite ses disciples à venir manger au mariage de Cana en Galilée, tout le monde est volontaire. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de venir porter sa croix à sa suite, à celui qui va venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, quand notre Seigneur Jésus-Christ nous annonce qu'on va se moquer de lui, qu'on va le flageller, qu'on va cracher sur lui, qu'on va faire mourir, eh bien personne ne veut le suivre. Et donc comme on refuse la passion, eh bien le mystère de la résurrection devient pour nous absolument incompréhensible. Parce que la résurrection ne peut s'opérer que si notre Seigneur Jésus-Christ est mort. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ veut rattraper les péchés, il a fallu qu'il y ait une mort douloureuse. Alors, ne nous étonnons pas si nous avons bien du mal à accepter ces choses-là, puisque les apôtres eux-mêmes n'ont pas compris et se sont un petit peu révoltés. Et c'est la raison pour laquelle les apôtres, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va être prisonnier, fait prisonnier par les Juifs, après la trahison de Judas, les apôtres vont tous se sauver, ils vont s'enfuir, ils s'enfuirent tous, nous disent l'Évangile. Ils s'enfuirent tous, y compris le chef, futur chef des apôtres, hein, y compris Saint Jean, le seul apôtre qui était vierge, y compris Saint Jacques, qui va pourtant être le premier apôtre à donner sa vie pour notre Seigneur, eh bien ils s'enfuient tous. Avançons donc page 16, en bas de la page, versets 35 à 43 du chapitre 18 de Saint Luc. Il arriva comme il approchait de Jéricho qu'un aveugle était assis au bord du chemin demandant l'aumône. Et entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Il cria en disant, « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. » Et ceux qui marchaient en avant le reprenaient rudement pour qu'il se tue. Mais il cria encore plus, « Fils de David, ayez pitié de moi. » Alors Jésus, s'arrêtant, ordonna qu'on le lui amenât. Et lorsqu'il se fut approché, il l'interrogea en disant, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je voie. » Et Jésus lui dit, « Voyez, votre foi vous a sauvé. » Et aussitôt il vit, il le suivait en glorifiant Dieu, et tout le peuple ayant vu cela rendit gloire à Dieu. Et si notre Seigneur explique que la prière doit être persévérante, il faut s'approcher de Dieu. On a l'impression parfois qu'il nous rejette. Et donc quand on annonce à cet aveugle que c'est Jésus de Nazareth, il a entendu parler de Jésus de Nazareth, un grand prophète qui faisait des miracles extraordinaires, et entre autres qui rendait la vue aux aveugles, alors il se met sur son séant, il se dresse, « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi !» Et ceux qui sont autour le reprennent, rudement, parce que ils comprennent plus ce que dit notre Seigneur à cause du bruit fait des vociférations de l'aveugle. Et il va crier encore plus fort, « Fils de David, ayez pitié de moi !» Faire la même chose avec notre Seigneur. Cette histoire du chapitre 18, de l'aveugle qui demande l'aumône et qui insiste pour être guéri par notre Seigneur Jésus-Christ, nous explique à quel point il nous faut faire la même chose. Nous aussi, on est spirituellement aveugles. La cécité n'est pas simplement une cécité physique, ici c'est aussi une cécité spirituelle. Cet aveugle représente l'homme qui ne voit plus Dieu. Il n'est plus capable de voir Dieu à cause de ce péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supplier le bon Dieu de nous donner les grâces dont nous avons besoin pour nous convertir. Et si notre Seigneur semble ne pas écouter, il faut continuer d'insister. Prier à temps et à contre-temps, nous dit notre Seigneur. Jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ s'arrête et ordonne qu'on vienne à lui. Seigneur, que je vois, c'est notre histoire. Seigneur, ouvrez mon âme, ouvrez mon intelligence, ouvrez ma volonté, ouvrez mon intelligence pour que je puisse voir le vrai, ouvrez ma volonté pour que je puisse désirer ce vrai et l'atteindre. Ouvrez mon cœur pour que je puisse être maître de mes passions. Et notre Seigneur va lui rendre la vue. Votre foi vous a sauvé. Voyons le commentaire des Pères, donc page 16 en bas de la page. Quand la foi est prête à accepter, la grâce abonde. Comme d'une même fontaine, on peut tirer un peu d'eau pour des petits vases ou beaucoup d'eau pour des grands. La fontaine, ne sachant faire la différence dans la mesure, comme le soleil entre plus ou moins dans une maison en fonction du nombre de fenêtres ouvertes, ainsi, selon la mesure des motifs de l'homme, est accordée la réserve de grâce. Et là, on voit très bien ces explications des Pères, comment il faut mettre en parallèle la toute puissance de la grâce de Dieu, mais en même temps, le libre arbitre de l'homme. Parce que la lumière va pouvoir rentrer dans la mesure où on ouvre les volets. Si vous maintenez tous les volets de votre maison fermés, comment voulez-vous que la lumière puisse rentrer dans la maison? On ne va rien voir, donc on est dans l'obscurité, la société la plus complète. Donc il faut ouvrir les volets. Ça ne suffit pas d'ouvrir les volets. Si on ouvre les volets, certes, la lumière peut rentrer, il faut encore ouvrir la fenêtre. Pour que le bon air, qui symbolise l'Esprit Saint, puisse rentrer. Donc il faut que j'ouvre les fenêtres de mon âme pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer. Eh bien, ce fait que j'ouvre moi-même les fenêtres de mon âme représente le libre arbitre. Par le libre arbitre, je peux ouvrir les fenêtres de mon âme et à ce moment-là, la grâce peut pénétrer, le Saint-Esprit peut souffler sur moi. Est-ce que mon libre arbitre est totalement entre mes mains? Non, justement, c'est là où est le mystère. C'est que le libre arbitre ne peut pas être utilisé dans le bon sens sans une grâce prévenante de Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'une grâce prévenante? Une grâce prévenante, c'est une grâce qui nous amène à la contrition, qui nous amène au désir de Dieu. J'ai commis un péché grave. Si j'ai commis un péché grave, j'ai perdu la grâce de Dieu. J'ai perdu la grâce sanctifiante, j'ai perdu la charité. Est-ce que je peux regretter mes péchés de façon surnaturelle, ne serait-ce qu'avec une contrition imparfaite, c'est-à-dire le regret de mes péchés par peur de l'enfer, sans une grâce spéciale du bon Dieu? Est-ce que je suis capable de regretter mes péchés de façon surnaturelle, par une simple attrition, regrette ses péchés par peur de l'enfer, sans que le bon Dieu ait obtenu pour moi, par les mérites de sa passion, cette grâce de la contrition imparfaite? Non, c'est impossible. Je ne peux pas avoir une grâce. Je ne peux pas avoir une contrition imparfaite de mes péchés sans une grâce prévenante de Dieu. C'est juste que je suis capable d'avoir par mes propres forces, c'est une contrition servile, mais la contrition servile est insuffisante pour se faire pardonner ses péchés. C'est là où est le mystère, c'est un mystère insondable, certainement le plus grand mystère de la foi chrétienne. Comment peut-on placer sur le même plateau, si vous voulez, le libre arbitre de l'homme et la toute-puissance de la grâce de Dieu? La toute-puissance de la grâce de Dieu qui ne détruit pas le libre arbitre de l'homme, mais le libre arbitre de l'homme ne peut pas s'exercer sans une manifestation de la toute-puissance de Dieu. Il faut que Dieu pousse la machine. Mais c'est pas l'homme qui commence à se mettre en mouvement vers le bon Dieu, puis le bon Dieu qui vient donner un petit coup de main. Non, c'est pas comme ça. Parce que si vous croyez que c'est par vos propres forces que vous pouvez vous mettre au service du bon Dieu, puis que le bon Dieu va venir vous aider après, vous êtes un pélagien. C'est ce qu'on appelle le pélagianisme. Le pélagianisme, Saint Augustin a beaucoup lutté contre le manichéisme, mais aussi le pélagianisme. Le pélagianisme, c'est ça, c'est croire qu'on peut se mettre au service du bon Dieu et suivre notre Seigneur Jésus-Christ par ses propres forces. Or, ce n'est pas possible. Alors, le pélagianisme ayant été condamné par l'Église, les petits malins qui sont arrivés avec le semi-pélagianisme en disant, bon, d'accord, c'est vrai que il faut la grâce du bon Dieu pour se mettre au service du bon Dieu, mais au moins je commence à faire le travail et puis le bon Dieu vient m'aider. Non. Même le début du travail, le début par lequel je me commence à me mettre sur le chemin qui me mène vers le bon Dieu, ce simple début ne peut être effectué par moi sans une grâce particulière de Dieu. Donc, je dois ouvrir les fenêtres pour que le soleil, la lumière du soleil puisse rentrer dans ma maison. Je vais ouvrir les volets pour que la lumière du soleil, la lumière de la grâce puisse rentrer dans ma maison. Mais j'ai besoin d'une grâce actuelle de Dieu pour pouvoir ouvrir ces volets et ouvrir la fenêtre. C'est un grand mystère. Passons à la page 17. L'aveuglement est donc un symbole de la race humaine, car nos premiers parents ne savaient pas quelle serait l'intensité de la lumière céleste et ils souffrent maintenant de l'obscurité de la condamnation. Alors attention que ce texte, donc je l'ai mis parce que je l'ai trouvé dans les... Je ne sais plus où j'ai trouvé ça, mais les pères de l'Église, certains pères disent ça, entre autres Saint Grégoire, cependant c'est disputé. Là, il semblerait, d'après Saint Grégoire, que Adam et Ève, nos premiers parents, dont il parle ici, souffrent l'obscurité de la condamnation. C'est-à-dire, la condamnation, c'est quoi? L'obscurité de la condamnation, c'est l'enfer. Or, la plupart des pères de l'Église pensent que Adam et Ève sont sauvés. Ce n'est pas certain. Cependant, c'est quand même l'enseignement commun de l'Église. Qu'Adam et Ève sont sauvés parce que après leur prévarication, après avoir tout perdu, ils ont perdu la grâce sanctifiante, ils ont perdu la liberté, ils ont perdu les dons préternaturels. Eh bien, une fois qu'ils ont tout perdu, ils ont fait pénitence de leur péché pendant bien longtemps, pendant toute leur vie, ils ont fait pénitence. Rappelez-vous les conséquences du péché. Ils ont dû, pour l'homme, travailler à la sueur de leur front, pour l'homme, de son front, pour l'homme et pour la femme. Et, de conséquences du péché, d'abord d'enfanter dans la douleur, et deuxièmement d'être sous l'autorité de son mari, ce qui n'est pas rien. Eh bien, la plupart des pères de l'Église pensent qu'Adam et Ève sont sauvés, donc il faut prendre avec mesure ce texte de Saint Grégoire. Au verset 35, chapitre 18, il est parlé de Jéricho. Lorsque notre Seigneur s'approchait de Jéricho, voici qu'un aveugle était assis au bord du chemin demandant l'aumône. Donc Jéricho représente le monde moderne. Pourquoi ? Parce que le symbole, symbole de la ville de Jéricho était la lune. Sur l'écusson de la ville de Jéricho, il y avait la lune. Or, la lune est un objet qui change d'apparence constamment. On commence avec une nuit noire et puis au fur et à mesure que les jours avancent dans la progression du mois, la lune va devenir un quart de lune, puis une demi-lune, puis un trois quarts de lune et enfin une lune pleine et ensuite va décroître. Eh bien, cela représente l'inconstance du genre humain. L'inconstance du genre humain, la faiblesse de notre mortalité. Voilà ce que disent les pères. Jéricho veut dire la lune qui s'affaiblit au cours du mois et qui représente la faiblesse de notre mortalité. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va trouver l'aveugle près de Jéricho, parce que l'aveugle, justement, est inconstant. Et donc, il va falloir qu'il s'attache à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas répondre à sa prière tout de suite. Lorsque l'aveugle se lève, entendant dire que c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui passait, il va se lever, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et malgré les rebuffades de ceux qui l'entouraient, il répète la chose, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il augmente le son de sa voix, l'intensité de sa voix, pour être sûr que notre Seigneur Jésus-Christ l'écoute. Et une fois que notre Seigneur Jésus-Christ s'arrête, il donne un ordre qu'on lui amena cet aveugle. Il l'interroge, « Que voulez-vous que je fasse, que je vois, Seigneur ? Voyez, votre foi vous a sauvé. » Mais notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas un miracle sans demander la foi, au moins le début de la foi. Est-ce qu'on peut, encore une fois, avoir cette foi par nos propres forces? C'est évidemment impossible. La foi est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu. Est-ce que Dieu est obligé de nous donner la foi? La foi est un don gratuit de Dieu. Dieu donne la foi un peu à qui il veut. D'ailleurs, on le voit très bien autour de nous. La foi, par quel sacrement est-elle donnée? La foi, elle nous est donnée par le baptême, bien sûr. Mais pensez à ces millions de personnes qui ne verront jamais la grâce du baptême. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ donne la grâce du baptême à certaines personnes et pas à tout le monde? Ça, c'est un grand mystère. Hein, c'est le mystère de la prédestination, qui est un mystère insondable, lequel il ne faut pas trop s'attacher, parce que si on pense trop à la prédestination, on décourage complètement. Dieu sait par avance si vous et moi, on sera sauvés. Mais en même temps, nous ne sauverons pas par nos propres forces. Nous avons besoin des grâces du bon Dieu pour nous sauver, mais en même temps, ces grâces du bon Dieu sont prévenantes et vont accompagner notre volonté, préparer notre réponse à la volonté, à la grâce divine, pour que nous puissions suivre notre Seigneur. Encore une fois, toujours les mêmes choses, la toute puissance de Dieu met le libre arbitre, le libre arbitre, et par, comme son nom l'indique, libre. Cependant, ce libre arbitre ne peut pas se mettre en branle sans une grâce particulière prévenante de Dieu. Quel mystère! Lorsque notre Créateur se rapproche de Jéricho, c'est au verset 35, il arriva comme Jésus s'approchait de Jéricho, L'aveugle retrouve la vue, parce que Dieu, ayant pris sur lui la faiblesse de notre chair, la race humaine retrouva la lumière qu'elle avait perdue. Donc, par son incarnation, notre Seigneur Jésus-Christ va rendre la lumière à l'humanité. Mais celui qui ignore l'intensité de la lumière éternelle est aveugle. Il faut s'approcher de notre Seigneur. Et même si notre Seigneur semble ne pas écouter, il faut continuer. Mais c'était l'erreur des apôtres lors de la tempête apaisée. Ils paniquent complètement parce qu'ils voient la tempête qui monte, le vent qui souffle de plus en plus fort, les vagues qui se creusent, la mer qui envahit la barque, qui va couler. Ils ne réfléchissent pas en disant « Oui, bon, c'est vrai, humainement parlant, c'est mal parti, mais notre Seigneur est là. Il dort sur un coussin, la tête sur un coussin au fond de la barque. Donc il est là, il n'y a rien à craindre. » Il manquait de foi. Ils vont réveiller notre Seigneur. Il n'y a pas besoin de réveiller notre Seigneur Jésus-Christ. L'important, c'est qu'il soit là. Il suffit de vérifier, est-ce qu'il est toujours là? Oui, il dort, oui. Il dort, mais il est là. Donc s'il est là, il n'y a rien à craindre. Ah, mais humainement, tout semble perdu. Oui, mais il est là. Donc rien ne peut nous arriver sans sa permission, puisqu'il est là. C'est un peu la même chose pour nous. Nous aussi, on est un peu comme les apôtres, hein, du mal à croire. Donc il faut répéter les mêmes choses. Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Et Seigneur, j'ai de plus en plus de tentations, de plus en plus de désolations, la vie est de plus en plus difficile pour moi. Seigneur, Seigneur, ayez pitié de moi. Fils de David, ayez pitié de moi. Et puis même si notre Seigneur Jésus-Christ semble ne pas répondre, il faut continuer de répéter les mêmes choses constamment jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ écoute. Combien de fois faut-il répéter? Ça dépend des gens. Il y a des gens à qui le bon Dieu accorde la grâce de la conversion très vite. On voit très bien parfois des conversions presque immédiates. J'ai vu ça aux exercices Saint-Ignace. Des gens qui se convertissent, c'est des vraies conversions, conversions qui vont durer très rapidement. Dès le premier jour de la retraite, dès le deuxième jour, début du deuxième jour de la retraite, déjà, ça y est, les gens ont tout compris la gravité du péché, ils ont compris la miséricorde infinie du bon Dieu pour pécheurs repentants, ils ont préparé leur confession générale, et puis au bout d'une journée, ils nous disent, monsieur l'abbé, ça y est, j'ai, avec la grâce du bon Dieu, j'ai tout compris, je suis déjà prêt à me confesser. On attend quand même presque deux jours et demi, même dans certains cas, pour avant de confesser aux exercices Saint-Ignace, pour être sûr que les gens augmentent en eux ce regret de leur péché. Mais certains ont déjà la contrition très rapidement. J'ai remarqué, par exemple, quand je prêche pour les dames qui sont beaucoup plus sensibles que les hommes, les femmes qui sont beaucoup plus sensibles que les hommes, obtiennent cette grâce de la contrition beaucoup plus rapidement que les hommes. Pour convertir un homme, il faut souvent deux jours et demi. Alors que pour convertir une femme avec la grâce du bon Dieu, c'est bon Dieu qui fait le travail, c'est pas moi. Hein. Pour convertir une femme, souvent, au bout d'une journée, une journée et demie, déjà la conversion est là. Mais celui qui ignore l'intensité de la lumière éternelle est aveugle. Il faut s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir voir cette lumière. Si je suis loin de Dieu, je ne peux pas voir. C'est comme quelqu'un, si vous voulez, qui va s'approcher du faisceau du phare, et tant qu'il est hors du faisceau du phare, qui illumine l'entrée du port, il ne voit rien. Et lorsque la lumière du faisceau lumineux va illuminer la passe d'entrée du port, à ce moment-là, ah, je vois, c'est par là qu'il faut que je passe. Et le capitaine peut se diriger, et puis si au bout de quelques centaines de mètres, il est de nouveau perdu, il arrête le moteur, il attend pour que, de nouveau, le prochain passage du faisceau lumineux lui indique avec plus de certitude encore, plus de sécurité encore, l'endroit où il doit passer pour atteindre atteindre le port. Alors, voyons un petit peu le sens mystique donné à ce passage de l'aveugle par les pères de l'Église. Si l'homme ne fait rien d'autre que de croire que le Rédempteur a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie », il est assis au bord du chemin. C'est le verset 35. L'aveugle est assis au bord du chemin et demande l'aumône. Donc, il croit, mais ça s'arrête là. Il croit que le Rédempteur a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie », mais il ne réalise pas que le Rédempteur est en train de s'approcher de lui. S'il croit et prie pour recevoir la lumière éternelle, il est assis au bord du chemin et demande l'aumône. Là, c'est la deuxième étape. Première étape, on est au bord du chemin. C'est déjà quelque chose, hein? Parce qu'on est au bord du chemin qui va être utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ, qui va franchir ce chemin devant moi. Et donc, il faut d'abord que je sois tout proche. Si je suis pas sur le chemin, notre Seigneur va passer, je vais pas pouvoir atteindre parce que je suis pas sur le chemin. Donc, première étape, être sur le chemin. Ça suffit pas. Deuxième étape, il faut demander. Demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donc, deuxième étape, il faut être assis au bord du chemin et il faut demander l'aumône. Ceux qui viennent devant Jésus, troisième étape, alors qu'il arrive, représente la multitude des désirs charnels et la foule très occupée des vices qui éparpillent nos pensées, nous distrait dans nos prières avant que Jésus ne vienne dans nos cœurs. Donc il faut, troisième étape, il faut continuer de demander parce que les désirs charnels, les vices du monde, éparpillent nos pensées, distraient nos prières, et ce qui fait qu'il faut redemander constamment la même chose. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et plus l'aveugle crie, nous disent les pères, plus il nous faut nous donner à la prière, étant assiégé par ses pensées qui ne nous laissent aucun repos. Ne pas nous décourager, même si humainement parlant, on a l'impression que notre Seigneur n'écoute pas. L'important, c'est qu'on soit sur le bon chemin. Est-ce que je suis assis sur le bon au bord du bon chemin? Est-ce que c'est par là que notre Seigneur Jésus-Christ va passer? On se renseigne. Est-ce que c'est bien le bon chemin là qui mène, par lequel notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, va passer? Oui, oui, vous êtes sur le bon chemin. Ça va. Mais j'entends rien. Ça fait rien. Je suis sur le bon chemin. C'est ce qui compte. Mais je vois rien. C'est pas grave. Vous êtes sur le bon chemin. Et puis, au bout d'un certain temps, on entend du bruit. On demande qu'est-ce qui se passe. Et on me dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Ah! Alors là, il arrive. Le Messie arrive. Donc, on se lève. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et puis, le tout Seigneur fait semblant de pas entendre. Il fait semblant de pas entendre. En fait, il a très bien entendu, puisqu'il a eu de très bonnes oreilles. Et donc, il va nous laisser répéter, parce qu'il veut augmenter en nous notre foi. C'est pour cela qu'il va dire au verset 42, « Votre foi vous a sauvé. » Et cette foi, elle est manifestée par le fait que cet aveugle ne s'est pas découragé, bien que ceux qui marchaient en avant le reprenaient rudement pour qu'il se tue, il crie encore plus fort, « Fils de David, ayez pitié de moi. » Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir augmenté la foi de cet aveugle, va le guérir. L'aveugle recherche dans le Seigneur non l'or mais la lumière, dire non les choses de ce monde mais la lumière divine. Ne cherchons donc pas nous les fausses richesses mais cette lumière que nous sommes avec les anges, les seuls à voir par la foi. Cette lumière, c'est la lumière de la charité. Donc il y a deux lumières, il y a une lumière du monde, le brillant artificiel de l'or, le bruit du monde moderne qui présente des lumières qui miroitent comme cela, mais c'est des lumières superficielles, des lumières qui ne vont pas en profondeur. Et puis il y a la véritable lumière, c'est la lumière de la charité. Et pour voir cette lumière de la charité, il faut la foi. Pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ va augmenter cette foi, pour que cette lumière de charité puisse vraiment atteindre les yeux de cet aveugle et que notre Seigneur puisse le guérir. Notre commentaire de saint Augustin cette fois-ci, page 17. Si Jéricho signifie la lune, j'ai déjà expliqué, et donc la mort, il faut dire que le Seigneur qui s'approche de la mort ordonne que la lumière de l'évangile ne soit prêchée qu'aux juifs seulement, ce qui n'est signifié par l'aveugle dont parle saint Luc. Mais une fois mort et ressuscité, puis monté au ciel, il veut que l'évangile soit prêché aux juifs, mais aussi aux gentils. Il veut que l'évangile soit prêché aux juifs, mais aussi aux gentils. Ces deux nations semblent être représentées par les deux aveugles mentionnés par saint Matthieu. Donc, qui va être chargé de la prédication aux gentils, aux non-juifs? C'est tout l'apostolat de saint Paul. Saint Paul, justement, va être suscité par notre Seigneur Jésus-Christ, va être converti sur le chemin de Damas, et il va être abattu de son cheval, et il va se trouver aveugle. Et saint Paul va lui demander, il va entendre cette voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Jésus que vous persécutez, que tu persécutes. » Et saint Paul va se convertir, la merveilleuse conversion de saint Paul, et saint Paul va être associé aux apôtres, cette fois-ci, pour prêcher en dehors du peuple juif. Au début, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu ne s'adresser qu'au peuple juif. On peut se poser la question, souvent les gens se posent la question, mais pourquoi est-ce que notre Seigneur n'est pas parti d'Irak directement dans le monde entier? Peut-être qu'il aurait trouvé dans le monde autour de la Palestine, il aurait trouvé des gens qui l'écoutent et qui ne chercheraient pas à le crucifier. Bien tout simplement parce que la réponse est toute simple, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ avait préparé de tout temps, depuis le début de l'histoire du monde, avait préparé un peuple à lui, le peuple de l'Ancien Testament, c'est le peuple juif, attention. C'est ce peuple qui avait reçu les promesses de la vie éternelle. Le peuple avait reçu la promesse que le Messie viendrait en son sein. Et là, ce peuple a été infidèle, pas tout le monde, pas tous les juifs, mais était infidèle en partie. grande partie des membres du Sanhédrin, pas tout le monde, Gamaliel était pas un traître, mais beaucoup ont trahi notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Messie est arrivé, au lieu de l'accueillir à bras ouverts, ben, ils l'ont rejeté. Ça leur a coûté très cher, mais heureusement, beaucoup de Juifs se sont convertis. N'oublions pas encore une fois que les premiers catholiques étaient pratiquement tous des Juifs convertis. La Sainte Vierge Marie était de race juive, Saint Joseph était de race juive, Saint Pierre et les apôtres étaient de race juive. Donc attention à ne pas raconter de bêtises sur ce sujet. Alors donc il y a deux prédications. Une prédication réservée au peuple juif, au peuple de l'Ancien Testament, la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va donc s'arrêter à ces gens-là. Notre Seigneur ne va pas quitter la Palestine. Il va passer toute sa vie en Palestine, sa vie humaine en Palestine. Et c'est simplement après sa mort, après la Pentecôte en fait, que les apôtres vont être envoyés, commencer par Saint Paul, qui va s'associer, être associé aux apôtres. Et notre Seigneur va envoyer les apôtres prêcher dans le monde entier. Et on voit très bien notre Seigneur qui dit aux apôtres, maintenant, il est temps d'aller prêcher en dehors de la Palestine, la Judée, la Samarie, la Galilée, en dehors de la Palestine, allez prêcher, baptiser. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc notre Seigneur Jésus-Christ veut que l'évangile soit prêché à tout le monde. Alors attention, justement, c'est une des erreurs des Juifs de penser que notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, n'est que pour les Juifs. Alors les Juifs pensent qu'il y a une certaine loi juive pour les non-Juifs, ce qu'on appelle les lois noachides, mais en fait ils ne comprennent pas que les lois juives sont devenues caduques avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que le rideau du temple va se déchirer de haut en bas pour bien montrer que c'est maintenant la fin de l'Ancien Testament, l'arrivée du Nouveau Testament. Nouveau Testament, ça veut dire quoi? Ça veut dire nouveau peuple élu. Le peuple élu catholique se substitue au peuple juif. Malheureusement, les Juifs n'ont pas compris ça, dans l'immense majorité, ils vont encore attendre notre Seigneur Jésus-Christ alors qu'il est déjà venu. C'est pour ça que le peuple juif refuse la Sainte Trinité. Précisément parce qu'ils n'ont pas accepté la deuxième personne, la Sainte Trinité, qui s'est déjà incarnée. Avançons, passons au chapitre 19, nous avons terminé le chapitre 18 de Saint-Luc, passons au chapitre 19, page 18. Commençons par les premiers versets, versets 1 à 10 du chapitre 19 de Saint-Luc. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici qu'un homme nommé Zachée, chef des publicains et fort riche, cherchait à voir qui était Jésus. Il ne le pouvait à cause de la foule, parce qu'il était petit de taille. Courant donc en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il avait passé par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et l'ayant vu, lui dit: Zachée, hâtez-vous de descendre, car aujourd'hui il faut que je demeure dans votre maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, disant qu'il était allé loger chez un homme pécheur. Cependant, Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, voici que je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit: aujourd'hui le salut a été accordé à cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée a eu un rôle important dans la région dans laquelle j'habite. J'habite dans la frontière entre le Tarn et l'Aveyron. Et c'est là où Zachée a été appelé après à missionner. Il est parti, il a quitté la Palestine avec son épouse, Sainte Véronique, qui était en fait Sainte Bérénice. On appelait Véronique, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, Sainte Véronique, parce qu'au début on ne connaissait pas son nom. Et Véronique en grec, ça veut dire, Véronica, ça veut dire la vraie image, était celle qui avait reçu le visage imprimé notre Seigneur Jésus-Christ sur son voile. Et bien Sainte Véronique était, Sainte Bérénice, la même, était l'épouse de Zachée. Et Zachée va quitter la Palestine et va remonter les côtes de la Méditerranée jusqu'en France. Et Zachée va rester, va quitter son épouse dans un lieu, dans le Lot, je crois que c'est dans le Lot, à Rocamadour. À Rocamadour, il va rester là-bas, et Rocamadour, c'est le rocher de Zachée. Roc Amadeo, le rocher de l'homme qui aimait Dieu. Et cet homme qui aimait Dieu, c'est Zachée, Saint Zachée, le petit homme de l'Évangile, qui était trop petit pour voir notre Seigneur. Et donc Saint Zachée va rester à Rocamadour, Rocamadour, c'est un lieu magnifique pour ceux qui m'écoutent sur Internet, qui n'ont jamais vu Rocamadour. Je conseille beaucoup de venir voir ce lieu magnifique, un des plus beaux villages de France, un des grands sanctuaires chrétiens, des plus beaux sanctuaires chrétiens, certainement avec le puits et Rocamadour sont les deux peut-être plus grands sanctuaires en France, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et à Rocamadour, c'est une grande falaise et les chrétiens ont réussi à construire plusieurs églises l'une au-dessus de l'autre sur cette paroi verticale. C'est absolument ahurissant sur le plan technique. Et au sommet du grand escalier qui part du village et qui monte vers l'église supérieure, au sommet de ce grand escalier, donc à l'entrée de la troisième église, eh bien, il y a là un tombeau, un sarcophage, qui est hélas vide. C'est là où était Zaché. Et son corps a été détruit, je ne me rappelle plus si c'est pendant la Révolution ou avec le protestantisme. Et au-dessus de ce sarcophage qui contient le corps de Zaché, de Saint Zaché, il y a également l'épée de Roland. Roland qui a été trahi, qui était un des chevaliers de Charlemagne, et donc a été trahi alors qu'il revenait d'Espagne. Et il a été le corps d'armée qui était avec lui a été décimé, voyant qu'il allait être tué. Roland a voulu protéger son épée. C'est que l'épée de chevalier était sacrée, puisqu'elle contenait dans son pommeau en général des reliques de saints, de martyrs. Et donc, pour protéger son épée, empêcher qu'elle tombe entre des mains indignes et les mains des musulmans, donc Roland a lancé son épée le plus loin possible pour la soustraire aux musulmans qui arrivaient en masse pour achever tous les chevaliers chrétiens. Et Dieu a fait un miracle extraordinaire. Les anges ont attrapé cette épée et ont porté cette épée depuis les Pyrénées jusqu'à Rocamadour. Elle est allée se ficher dans le rocher qui est juste au-dessus du tombeau actuel de Zaché. Et elle est toujours là. Alors les habitants ont eu peur qu'elle s'envole de nouveau. Et alors du coup, ils l'ont vite attachée avec une chaîne. Elle est liée par une chaîne. Elle est, je sais pas, une quinzaine de mètres au-dessus du sol. Au-dessus de peut-être même une vingtaine de mètres, entre 15 et 20 mètres, je dirais, au-dessus du tombeau de Zaché, on voit très bien l'épée qui est fichée dans le rocher, sur peut-être une trentaine de centimètres, on ne peut pas l'enlever, d'ailleurs on ne peut même pas la toucher, elle est beaucoup trop haut. On voit très bien que seul un miracle a pu placer cette épée à cet endroit-là. En plus, le rocher surplombant au-dessus du tombeau de Zaché, et c'est là où est l'épée du chevalier de Charlemagne. Alors, Zaché est donc resté à cet endroit, Rocamadour, et sa femme, Sainte Véronique, est à ce moment-là, est partie, et continue son chemin est allé jusqu'en Aquitaine. Et là, elle a prêché l'évangile. Donc Zaché a prêché surtout autour de Rocamadour. Sa femme est allée jusqu'en Aquitaine et a prêché dans le Bordelais. Et ses ossements sont conservés sur la côte atlantique, juste au-dessus de Souillac-sur-Mer, au-dessus de la ville de Bordeaux. Et je suis allé à Souillac, il y a non pas le corps complet de Sainte Véronique, mais une partie de ses ossements qui sont là. Alors voyons un petit peu les commentaires des pères. Donc c'est un très beau symbole. Il faut voir, c'est là où on voit l'amour particulier qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ pour la France. Parce que beaucoup des premiers très grands saints issus des apôtres d'âge apostolique sont venus prêcher en France. Pourquoi est-ce que la France a été privilégiée à ce degré? C'est un grand mystère. Quand on voit surtout ce qui est devenu la France, une gigantesque poubelle aujourd'hui, on peut se demander dans quelle mesure la France méritait un tel miracle, de tels miracles. Et donc beaucoup des premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ sont venus prêcher en France. Je conseille beaucoup de lire le livre de Monseigneur Gaume. Monseigneur Gaume est un excellent historien, un historien très sûr. Lisez le livre en deux volumes des biographies évangéliques qui explique justement tout ce travail extraordinaire apostolique fait par les tout premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, à commencer par Sainte Marie-Madeleine. N'oublions pas que Sainte Marie-Madeleine a déjà commencé à prêcher dans le sud de la France avec sa sœur Sainte Marthe, son frère Saint Lazare. Donc la foi catholique est arrivée par Sainte Marie-Madeleine dès le milieu du 1er siècle, alors qu'un disciple de Saint Paul va prêcher dans le nord, à Paris, Saint-Denis, et que Saint Paul lui-même va venir prêcher dans le sud de la France. Narbonne a vu le passage de Saint Paul. Hein. Ils sont bien indignes de toutes ces visites apostoliques aujourd'hui. Pourtant, il ne faut pas se décourager, parce que la France reste la fille aînée de l'Église, même si elle ne le mérite certainement plus. Le bon Dieu a suscité une Sainte Jeanne d'Arc au XVe siècle. Il peut très bien tirer de sa manche une autre Sainte Jeanne d'Arc ou un autre grand chef religieux pour nous faire sortir de notre fange et de la poubelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui en France. Alors voyons un petit peu ces premiers commentaires. Je vais commencer au moins. Page 18. Il y a deux obstacles pour voir le Christ. Ce n'était pas tant la multitude des hommes que celle de ses péchés qui empêchait Zachée de voir le Seigneur, car il était aussi de petite taille. Donc deux choses empêchent Zachée de voir notre Seigneur. D'abord, sa taille et aussi ses péchés. Donc c'est à cause de ses péchés qu'il ne peut pas voir notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le poids de ses péchés l'empêche de lever les yeux vers notre Seigneur. Alors, pour essayer de voir quand même notre Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur le sycomore. Le sycomore, c'est un arbre. De même que le soleil inonde une maison de ses rayons, non pas par ses paroles, mais par son action, ainsi le Seigneur met en fuite la noirceur du péché par les rayons de sa justice, car la lumière brille dans l'obscurité. On a déjà expliqué cela. L'obscurité représente le péché, c'est l'obscurité spirituelle, la cécité, la cédille en quelque sorte, la paresse spirituelle, l'aveuglement spirituel. Et donc cette lumière qui va dissiper l'aveuglement spirituel, la cédille spirituelle, c'est la lumière de la justice et la lumière de la charité. Donc le Seigneur, par les rayons de sa charité, va mettre en fuite la noirceur du péché. Tout ce qui est uni est fort, disent les pères, mais divisé devient faible. Ainsi, Zachée divise ses biens en deux parties. Sa richesse ne venait pas de gains injustes, mais de son patrimoine. Sinon, on n'aurait pas pu rendre le quadruple à ceux qui l'auraient volé. Il n'aurait pas pu rendre quatre fois plus à ceux qui l'avaient volé avec des produits de vol. Donc, il avait aussi des biens patrimoniaux personnels. Zachée n'attend pas que le jugement de la loi lui impose ce genre de réparation, mais il se fait son propre juge. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ va dire: aujourd'hui le salut a été accordé à cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et on voit très bien que notre Seigneur s'invite, c'est lui qui fait le premier pas. Zachée, dit-il, hâtez-vous de descendre de votre arbre, car aujourd'hui il faut que je demeure dans votre maison. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu attendre, comme il a attendu pour l'aveugle, chapitre précédent. Avec l'aveugle, il attend que l'aveugle l'appelle Seigneur, fils de David, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et là il prend le devant. On voit très bien comme chaque âme est différente. Notre Seigneur ne considère pas chaque âme de la même façon. Ici, il prend les devants. Zachée, hâtez-vous de descendre. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans votre maison. Et déjà, Zachée qui cherchait Dieu, c'est la raison pour laquelle il était monté sur le sycomore. Il devait se cacher derrière les feuilles du sycomore. Mais il a pris déjà sur lui de monter sur l'arbre. Et s'il n'était pas monté sur l'arbre, notre Seigneur Jésus-Christ peut-être ne l'aurait pas appelé. Et c'est la conversion de Zachée. Nombreux sont les héros, les saints qui étaient de petite taille. C'est une belle citation des pères. L'abeille est petite parmi les autres animaux qui volent, mais son fruit est plus doux de toutes les choses douces. La majesté suprême de Dieu, sa gloire, sa force, sa grandeur brillent plus haut que tout. Et pour pouvoir atteindre notre Seigneur Jésus-Christ, il faut pratiquer l'humilité. Et on voit très bien cette humilité chez l'aveugle et ici chez Zachée. Les pères de l'Église avaient fait remarquer, je vous l'ai déjà expliqué, que pour rentrer dans la grotte où notre Seigneur Jésus-Christ vient de naître, il faut se baisser. Si on ne se baisse pas, on n'arrive pas à atteindre la grotte. Il faut se baisser et commencer par pratiquer l'humilité, se baisser, se courber pour pouvoir rentrer dans la grotte. Ceux qui ne veulent pas se courber ne peuvent pas rentrer dans la grotte parce que l'entrée est trop basse. « La foule, dit saint Cyrille, est une confusion de la multitude et nous devons grimper plus haut qu'elle si nous voulons voir le Christ. Alors, oui, on voit très bien que plus l'humilité est importante chez nous, plus notre Seigneur Jésus-Christ grimpe sur cette humilité pour nous faire nous élever avec lui vers le ciel. Voilà, bon, je vais arrêter ici parce que ça fait une heure que déjà que je vous parle. Si Dieu veut, nous continuerons pour le prochain cours. Et nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.